Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Les enfants que tu nous as permis qu'on puisse prendre soin, Père, des enfants que tu nous as prêtés, que tu nous demandes d'enseigner pour les diriger dans tes voies, Père, pour que ces enfants-là ne soient pas dans un monde perdu, mais qu'ils puissent te connaître à travers nos vies, puis qu'après ça, ils puissent faire leur vie seule aussi. Fait que je te remercie pour les moniteurs qui investissent du temps pour enseigner les gens, les jeunes. Puis je te prie aussi pour le rassemblement, Père, pour que chacun de nous, on puisse rencontrer notre Dieu à travers la parole. Puis merci pour chaque personne qui sont présentes ce matin. Amen. Bon, donc salut Samuel. Ça doit faire à peu près. Ça fait au moins 2 mois que je les cherche. Mes lunettes. Wow. Yes! Hey! Et c'est ça que je disais à Marie-Ève. Je disais, crime! La dernière fois que je m'en suis servi, c'était au pupitre à l'église. Ben, c'était là que je les avais laissés. Je suis content. Je n'aurais pas besoin de m'en acheter d'autres. Bon. Hey, c'est une journée pleine de bonnes nouvelles. Fait que ce matin, c'est moi qui apporte le partage. On donne un congé à Pasteur Dieu ce matin. Puis. Fait que ce matin, je vais juste tourner. OK. Bon. 2, 5. OK. Fait que ce matin, le titre de mon partage, c'est « Rare mais précieux ». Puis, comme introduction, je veux vous parler de mon témoignage de conversion. Comment est-ce que j'ai compris ce que Dieu avait fait à travers son Fils? Fait que moi, ma vie chrétienne, elle a commencé. J'avais 19 ans quand j'ai accepté, quand j'ai compris qu'est-ce que Christ était venu faire à la croix. Puis, dans ma conversion, j'étais une personne, à 19 ans, j'avais aucun problème, j'étais pas dans aucune situation qui faisait que c'était difficile pour moi, je restais chez mes parents, tout allait bien, puis j'avais mon frère le plus vieux, Richard, que lui, il était chrétien, puis je ne mêlais pas trop à lui. On en entendait parler en mal, mais je ne cherchais pas trop non plus à savoir ce qu'il faisait. Puis, mon frère, il m'a parlé de ça. Puis, il m'avait invité, premièrement, pour aller à une soirée de jeunesse. Puis, la première fois, j'avais été là carrément juste pour lui faire plaisir. Puis, à travers ça, dans ma conversion, bien, dans mon témoignage de conversion, c'est qu'au début, j'y étais strictement rien que pour lui faire plaisir. Puis, à travers ça, il y avait quelque chose qui m'intriguait aussi dans ce que lui faisait à l'Église. Puis, dans ces périodes de temps-là, c'est que mon frère puis sa femme, ils étaient dans la transition, mettons, de se diriger vers le baptême. Puis moi, bien, le dimanche après-midi, j'étais tout le temps chez mon frère. Puis lui, il était avec le pasteur, puis là, il était en train de se faire enseigner les cours pour la préparation pour le baptême, puis tout. Puis, j'écoutais. Puis, la journée où ce que mon frère s'est fait baptiser avec Marilyn, il marchait avec un, une toile de même, qui était simplement blanche. Puis, tranquillement, pas vite, on voyait apparaître doucement sur l'écran, on voyait Dieu d'un bord, puis l'homme de l'autre. Vous avez probablement déjà vu cette affaire-là. Puis, tranquillement, pas vite, c'est que l'enseignement dirigeait à ce que il y avait un précipice entre Dieu et l'homme. Puis, tranquillement, avec le temps, plus que ça allait, puis plus qu'il y avait de la couleur, puis plus qu'il y avait d'autres choses qui apparaissaient à l'écran. Puis on était capable de voir qu'il y avait Christ qui était, mettons, il y avait Dieu d'un bord, l'homme de l'autre. Puis en haut, il y avait le nom de Christ qui apparaissait avec le temps, en haut. Puis moi, j'avais dit, Moutou, je voulais me faire baptiser, mais je savais vraiment pas ce que ça voulait dire non plus. Mais ce jour-là que mon frère s'est fait baptiser avec Marilyn, c'est que j'ai compris que j'étais perdu, que j'avais aucun moyen d'aller à Dieu, à moins que je passe par Christ. Puis cette chose-là, ce matin, je vais vous parler de l'humilité. Puis l'humilité, on n'est pas obligé non plus de la vivre. Tu sais, pour moi, ça n'a pas été quelque chose qui était difficile. Ça ne m'a pas viré à l'envers d'un côté, mais ça m'a quand même emmené dans une position où est-ce que je voulais que je reconnaisse. Moi, personnellement, je crois que c'est la plus grande marque d'humilité que j'ai eue sur Terre, de reconnaître que j'étais perdu puis que j'avais besoin de Christ pour repasser à Dieu. Puis, en tout cas, moi, c'est ce que je le vois de même. Je l'ai parlé un petit peu avec ma femme, puis je lui demandais si ça faisait du sens à ses oreilles. Mais c'est, je crois, la plus grande marque d'humilité qu'un homme va avoir sur Terre, de reconnaître qu'il ne peut rien sans passer par Christ, qu'on a besoin de quelqu'un d'autre pour faire le bout de chemin. Fait que c'est mon témoignage de conversion, puis à travers ça, ça a été une grande marque d'humilité face à moi. Puis je suis sûr que la majorité d'entre vous, vous avez déjà aussi fait cette marque, ce pas-là dans vos vies. Puis, dans la première partie de mon message, c'est que l'humilité, c'est quelque chose qui est rare, mais qui doit être recherché. Je ne sais pas si je répète, là, mais dans ma première partie de message, je vais vous parler que l'humilité est rare, parce que c'est pas une chose qui est populaire, mais que c'est quelque chose qui est précieux aux yeux de Dieu. Dans la deuxième partie de mon message, je vais dire qu'on la trouve en cherchant Dieu, puis que ça nous amène à la vivre devant les hommes. Puis dans ma troisième partie de message, l'humilité vient lorsqu'un homme accepte le conseil, puis qu'il est prêt à se faire dire ce qu'il ne voit pas dans des angles morts. Fait que dans la première partie de mon message, quand que je vous parle que l'humilité, c'est quelque chose qui est rare, l'humilité, tu sais, quand je vous ai dit tantôt, dans ma conversion, ça n'a pas été quelque chose, ça n'a pas été quelque chose que j'ai trouvé qui avait été difficile à faire le pas, parce qu'en tout cas, tout à la bonne, je me suis juste rendu quelque chose. Tu sais, je me suis rendu compte de quelque chose que j'avais pas vu. Puis tu sais, comme je voyais Dieu puis l'homme, ça, je le savais, je croyais à ça. Puis Jésus, je n'avais déjà entendu parler à l'école, mais jamais approfondi. Mais dans cet angle mort-là, quand tu te mets à regarder, puis tu regardes comme il faut, puis tu te laisses enseigner, c'est que avec le temps, tu te rends compte que si je n'aurais pas regardé comme il faut, l'angle mort que l'homme n'a pas, c'est qu'il ne voit pas Christ non plus. Fait que, tu sais, pour moi, ça n'a pas été quelque chose de difficile, mais l'humilité, ça peut être aussi quelque chose qui nous amène dans une zone d'inconfort. C'est dans une zone où ce que on est plus vulnérable. Puis, on doit admettre dans l'humilité, qu'on ne peut rien faire, qu'on n'a pas les ressources, qu'on a besoin d'aide ou peut-être qu'on a tort sur quelque chose. Puis, qu'est-ce que je vais vous lire ce matin? Je vais vous lire en premier dans Philippiens 2.5. Dans Philippiens 2.5, je vous lis. Ça dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. » Puis, la plus grande marque d'humilité, c'est que je ne sais pas si on... Je veux vous en amener, genre, parce que moi, je me suis fait des petits dessins dans mon cahier, puis je ne sais pas en tout comment faire de mettre ça dessus Internet, là, ou bien vous emmener des belles images comme Pasteur G, il fait, ou comme d'autres font. Là. Mais moi, l'image que j'ai dessinée dans mon cahier, c'est que Christ, il est Dieu. Fait qu'on sait que Dieu, il est vraiment élevé, pareil. Puis que nous autres, mettons qu'on se compare, bien, c'est que dans mon livre, j'ai un homme qui est vraiment grand, qui représente Dieu. Puis au côté, j'ai un homme qui me représente, mais qui est vraiment microscopique, en tout cas, microscopique militant, là, pareil comme les petits bonhommes à TV, là, un petit bonhomme tout petit. Hein. Bien, si Dieu se serait vu, si Christ se serait vu comme il était, étant Dieu, il n'aurait jamais regardé à nous autres qui est plus bas à cause du péché puis à cause de qu'est-ce qui est dans l'homme. Mais pourquoi que Dieu est venu sur terre, c'est qu'il s'est rabaissé, nous voyant plus important que lui. Fait que c'est ça, son humilité, c'est ça qui a fait que Dieu il a pu venir puis nous dire tout ce qu'il avait à nous dire. C'est qu'il ne s'est pas vu comme étant plus grand que nous, c'est qu'il a fait le contraire. Il s'est remis plus grand puis il nous a vu plus important que lui-même. Fait que ça, c'est une super grande marque d'humilité par rapport à Dieu. Puis ça dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ, puis qui s'est humilié, puis blablabla. C'est à ça que je voulais vous apporter dans Philippiens 2.5. Puis, OK. Puis, en tout cas, dans ce que je voulais vous parler, en frais d'humilité, c'est comme... Moi, je me suis fait et tout l'image d'un homme qui est super fort, puis qui essaye de... Tu sais, l'homme qui est super fort, puis tu sais, on a tout en partie déjà vissé, une petite vis. Avez-vous déjà essayé de visser les vis en arrière d'une montre? Ils sont... En tout cas, moi, avec mes doigts, je suis vraiment vrai avec les poignets. Anne, tu dois être comme moi, tu sais. Mais... Si, mettons, je me vois comme plus grand que cette petite vis-là qu'il faut que je visse dans le boîtier de la montre, bien, si je ne suis pas humble avec cette vis-là, là, la première affaire qui va se passer, mais que j'accote le tournevis dessus, ou bien Sylvain et tout, il y a des bonnes pattes, tu sais. La première affaire qui va se passer avec cette vis-là, c'est sûr que je la pète. Parce que je me suis vu plus fort qu'elle. Fait que la vis, c'est sûr. C'est sûr qu'elle casse ou bien qu'elle visse des billets dans la montre puis que la montre, elle scrappe. Mais si je me rabaisse puis je me mets au niveau de la vis, à la grosseur qu'elle a, ben je vais y aller bien tranquillement puis je vais me mettre à son stade à elle puis je vais être capable de la visser jusqu'au bout, je ne la casserai pas. Mais ça, c'est une autre marque d'humilité. C'est comme dire, tu vas visser parce que tu t'es choqué après, elle a pété dans la montre parce qu'elle était trop petite. Elle n'est pas faite pour supporter la force que tu as. Fait que ça, c'est un autre exemple de l'humilité que je voulais vous apporter pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'humilité. Puis, c'est ça. Fait que... Puis, l'autre chose que je vais vous parler sur l'humilité, c'est que, je vous le dis, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, je pense que la majorité de vous autres, vous êtes comme moi, c'est que l'humilité dans nos vies, on la côtoie dans tout. dans nos relations entre nous autres, dans le travail, dans nos couples, avec nos enfants, avec plein de choses. Puis, ça peut vraiment être une zone de conflit, une zone où ce qu'on veut pas trop s'avancer là-dedans. Puis l'image que j'avais tantôt, c'est que, en tout cas dans tous ces domaines-là, c'est des places où on a besoin d'humilité, puis c'est pas des places non plus où est-ce qu'on voudrait non plus trop aller pousser là-dedans. Parce que, avez-vous déjà essayé de marcher dans une parce que j'avais ça comme image tout à l'heure, je trouvais ça quand même cool. Avez-vous déjà essayé de marcher dans une pièce qui est pleine de trappes à souris? Avez-vous déjà essayé? Moi non plus. Mais je sais que si, mettons, il faudrait que je m'en aille vers la porte, puis qu'il n'y ait aucun corridor dans cette pièce-là, mais que c'est des trappes à souris tout le long, bien, c'est sûr que je vais me mettre les orteils dans les trappes à souris. C'est sûr et certain. Puis mon bout de chemin, en titre par la porte, si je pourrais, je resterais sur le stage, puis je ne m'en irais pas là. Mais il faut que je m'en aille là. Fait que tu sais, l'humilité, elle se vit dans plein de domaines de nos vies. Mais on n'aura pas le choix de marcher puis d'aller gérer les trappes à souris qu'on va piler dessus. Puis il y en a plein de trappes à souris. En tout cas, moi, je trouvais ça quand même un bel exemple de mon truc. Il y en a partout, des trappes à souris. Puis même si c'est pas agréable, on va piler dessus, on va se faire pincer les orteils, puis ça va nous demander, en tout cas, d'essayer de trouver des solutions là-dedans. Puis à travers ça, je vous ai parlé que l'humilité est rare. Puis l'autre point de cette première partie-là, c'est que c'est pas une pensée qui est populaire aux yeux des hommes, mais c'est quelque chose qui est précieux aux yeux de Dieu. Puis la raison pourquoi ça fait que l'humilité, c'est pas quelque chose qui est populaire. Je ne veux pas vous poser une question, mais je vous pose une question à vous autres dans vos têtes, puis je ne veux pas que vous me répondiez parce que le partage va durer 5 jours. Fait que pourquoi vous pensez que l'humilité, c'est pas une valeur qui est vraiment en avant de toutes les valeurs sur Terre? La raison pourquoi ça fait que c'est pas une chose qui est mise en valeur puis qui marche en avant de toutes les autres, c'est parce que c'est une valeur puis c'est un trait de caractère qui vient de Dieu. On est dans un monde qui est sans Dieu. Si je me trompe pas, je pense qu'au Québec, on est 0,5% de la population qui est chrétienne. On n'est vraiment pas beaucoup. Fait que la pensée du monde se tourne plus vers l'orgueil ou vers « je vais faire mes affaires moi-même, puis je vais m'arranger, puis je vais foncer tout seul, puis j'ai pas besoin de personne. » Mais l'humilité, ça vient d'un cœur où est-ce que Dieu commence à travailler dedans. Parce que cette humilité-là, si vous la recherchez, si je la recherche, vous ne la trouverez pas ailleurs que si vous vous approchez de Dieu. Parce que c'est une valeur qui vient de Dieu. Vous chercherez n'importe où, dans des canettes, dans des sacs de chips, dans des Cracker Jack, dans n'importe quoi, n'importe où, vous ne le trouverez pas. À part que si ça vient de Dieu, puis que vous vous laissez diriger dans ses voies à lui. Puis, puis, l'autre image que j'avais, parce que moi, je marche beaucoup par image dans ma tête, c'est que Dieu commence à venir travailler dans nos vies quand on s'avance vers lui, puis parce qu'il lâche un petit coup de téléphone. Puis, je vous lis quelque chose, OK? Je vous lis quelque chose dans Jacques 4, 6. Dans Jacques 4, 6. Jacques, c'est après Hébreu. Puis si on apprend ça, à force de tourner dans notre Bible, à savoir où est-ce que les livres sont cachés. Je vous parle par expérience. Jacques 4, 6, qui nous dit, Ça dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Puis, en tout cas, mon souhait, c'est de vous faire rire un peu. C'est que hier soir, pendant que je me gratte la tête à remettre mes notes au propre, c'est que il y a un petit quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que je vais changer deux petits mots dans ce que je suis en train de vous lire. Ça dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Puis, mais il fait grâce aux humbles. Tantôt, je vous ai parlé du téléphone, OK? Je vous ai dit que Dieu, il vous répond juste si vous l'appelez. Fait que ça dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il répond aux humbles. Fait que j'ai enlevé « fait grâce », qui est très bon quand même, mais ça dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il répond aux humbles. Fait que si on s'avance, puis qu'on va vers Dieu, qu'on lâche un coup de téléphone, ben il va nous répondre. Dieu, c'est le... Dieu, savez-vous, c'est une chose qui est belle de Dieu, mais qui nous laisse vraiment une grosse responsabilité, c'est que Dieu, il travaillera... Dieu ne s'ingérera jamais dans ma vie. Puis il ne s'ingérera jamais dans votre. Parce que Dieu va toujours travailler dans vos vies si vous lui demandez de le faire. Dieu va faire du travail simplement en réponse à notre appel. Fait que si, mettons, il résiste aux orgueilleux, parce que l'orgueilleux n'a pas besoin de Dieu, mais que d'un côté, il répond aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Fait qu'en tout cas, c'était une belle petite image, puis au côté de ça, j'avais un petit bonhomme avec un gros sourire, que je trouvais ça quand même drôle, pareil. Puis, dans l'aspect de l'humilité, c'est que cette semaine aussi, je me suis mis dans la peau d'une personne qui est vieillissante. Puis je me suis fait du fun aussi dans cette section-là, sérieusement. Je la ris encore, puis j'espère que vous allez la rire aussi. C'est que je me suis mis dans la peau d'une personne qui était en perte d'autonomie. Puis, je me suis dit autonomie. Je ne sais pas si ma femme va rire, mais je me suis dit, Crème, je pourrais-tu faire un jeu de mots avec autonomie? As-tu quelque chose que je pourrais faire pour que ça ait un sens, genre la perte d'autonomie? La perte d'autonomie, c'est genre une place de nos vies où ce qu'on tombe sans moyen. Puis j'ai pris le mot autonomie. Oh, vous avez hâte de le savoir, hein? J'ai pris le mot autonomie, puis je l'ai coupé en trois. Auto, no, mi. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec autonomie pour lui donner un sens? Fait que je suis descendu dans la cave chez nous, je suis allé chercher mon dictionnaire. Puis, j'ai laissé le mot « auto » d'un côté. J'ai pris le « no ». J'ai regardé tous les mots du dictionnaire qui commençaient par « no ». Puis, j'ai essayé d'y donner un sens avec le mot « autonomie ». Puis, j'ai pris le « mi ». Puis, j'étais allé chercher tous les mots dans le dictionnaire qui commençaient par « mie ». Puis, j'ai essayé de trouver un mot encore qui allait fitter avec autonomie. Puis, là, je vous pose une question, je ne veux pas que vous me répondiez. Gardez ça dans votre tête, ça serait trop long d'écouter tout le monde, même si vous auriez des bonnes réponses pour moi. C'est quoi, quand une personne commence à vieillir, c'est quoi une des premières choses qu'elle perd? Puis, répondez-moi pas. Gardez ça dans votre tête. Vous en avez plein, vous me le direz sur l'heure du dîner, si vous restez à dîner. Puis moi, la première chose qu'une personne perd, dans la majorité des personnes qui sont vieillissantes, la première chose qu'on leur enlève, c'est leur auto. Parce qu'ils deviennent un danger public. Fait que, autonomie, une perte d'autonomie, ils perdent leur auto. C'est cool, hein? Hey, moi, je me suis fait du fun en tabarnouche. Ah, j'étais content. Je me suis dit, merci Seigneur de me donner toutes ces petites idées drôles-là. Puis, Je me suis dit, crime, quand je vieillis, un jour, je vais être confronté à me faire dire que tu n'auras plus le droit de conduire. Puis ça, sérieusement, j'en ris là. Mais c'est quand même une période de ma vie que quand je vais être rendu là, admettons que ça va commencer à mal aller dans ma vie un petit peu. Là. Je vais avoir une période d'adaptation qui va probablement être difficile aussi. Puis dans l'autonomie, le « no », j'ai cherché dans tous les mots, puis le seul mot qui fitait, c'est « nord ». Tu as perdu son auto, tu perds le nord. Ça veut dire que tu perds tes repères en vieillissant ou dans des situations X. Une perte d'autonomie, c'est que tu perds un côté de motricité, l'autre côté, tu perds ton orientation dans une perte d'autonomie, ça veut dire le nord. Puis le MIE, c'est mien, des choses qui font partie de moi-même, qu'il faut que je commence à laisser aller, le mien, les choses qui m'appartiennent. Fait que l'autonomie, c'est l'auto, le nord, puis le mien. Qu'est-ce qui est moi? C'est que l'autonomie, c'est une place où est-ce que si l'humilité ne vient pas, puis savez-vous quoi? C'est que l'humilité, c'est. Tu sais, je vous parle d'autonomie, puis j'espère que vous ne pensez pas que c'est une partie de ma vie que je maîtrise bien, par exemple. Aujourd'hui, je vous partage là-dessus parce que. Si vous saviez comment est-ce que ma tête est le boucané pour faire ce partage-là, là, j'ai autant à apprendre, puis peut-être qu'il y en a dans la salle qui sont encore meilleurs que moi sur l'humilité. Mais c'est une place où est-ce que chacun de nous autres, où est-ce qu'on doit travailler dedans, l'humilité. Puis, même si la personne qui est vieillissante a peur son auto, qui a peur le nord, qui a peur les choses qui sont siennes comme le mien. À travers l'humilité, même s'il y a des choses qui ne changeront pas et qui ne s'amélioreront pas dans des pertes d'autonomie, si on les remet à Dieu en disant, en reconnaissant notre insuffisance, notre incapacité ou notre difficulté, si vous le remettez à Dieu, c'est le seul qui va faire que je va avoir la capacité de traverser ça. C'est le seul. C'est en le remettant à Dieu. Ça ne veut pas dire que les choses vont bien aller, mais il va nous aider à accepter les changements et les transitions difficiles de nos vies pour peut-être pas en rire, mais être capable de vivre avec à tous les jours, parce qu'il y a des choses dans nos vies qui ne changeront pas, puis qu'on ne changera pas non plus. Puis comme la personne qui est en perte d'autonomie, son auto ne reviendra pas. Son or, ça, c'est à travers l'humilité, ça peut revenir, repogner le repère. Puis les choses qui nous appartiennent, bien, Dieu est capable de mettre d'autres choses. Puis aider à faire la transition, même s'il y a des choses qui ne changeront peut-être pas. Fait que ça. Puis dans 1 Pierre 5:5, ça dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et vous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cette humilité-là qu'on a dans nos vies, là, elle va se transférer. Puis, je vous donne toutes des choses, des versets bibliques. Vous pouvez retourner les voir. Puis, je continue dans ma deuxième partie. Fait que dans ma deuxième partie, ça dit qu'on la trouve en cherchant Dieu, puis qu'on la vit devant les hommes. Une des choses que je veux vous aider et tout à développer, quand on la trouve en Dieu, je voulais vous dire de ne pas de ne pas avoir peur de vous mettre à genoux devant Dieu avec vos vies. Parce que Dieu, il connaît toutes les choses de vos vies. Il n'y a pas un domaine de vos vies que Dieu ne connaît pas. Chacun de nous autres, là, on est transparent face à Dieu. Vous savez, c'est quoi une vitre? Une vitre, c'est transparent. On est capable de voir l'autre bord, on est capable de tout savoir. On est capable de voir Stéphane de l'autre bord. On est capable de voir Julien de l'autre bord, grâce à la vitre. Mais Dieu est le même. Dieu, n'ayez pas peur d'aller vers Dieu parce qu'il connaît tout de vous autres. Puis, la chose que j'ai comme image dans ma tête, c'est une... Chez nous, en tout cas, vous avez déjà vu des contenants avec des têtes de mort dessus? C'est quoi que ça équivaut, la tête de mort? Qu'est-ce que ça veut dire, la tête de mort? C'est du poison. Si Dieu vous a créé, si Dieu m'a créé, s'il connaît toutes choses de vous autres, si vous êtes transparent devant lui, il est capable de tout savoir, est-ce que vous pensez que celui qui vous aime le plus vous donnerait un poison? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est contre le cœur de Dieu. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je veux vous emmener là-dedans? C'est que, à travers l'humilité, je veux vous pousser à aller vers Dieu, à ne pas avoir peur d'aller devant lui puis d'y parler. Parce qu'il vous connaît. Puis, une chose que je veux vous lire dans 1 Chronique. Dans 1 Chronique 28-9. 1 Chronique 28-9. Puis, c'est super intéressant, sérieusement. Cette bout-là, c'est très hot. Ça, c'est David qui est en train d'enseigner son fils Salomon. Puis, qui dit, 1 Chronique 28, verset 9. David dit à son fils, il dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué, d'une âme disposée. » Écoutez, tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu vous connaissait, que vous étiez comme une vitre devant lui. « L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » C'est hot en temps pareil. Tu sais, je vous le dis, j'entends souvent Pasteur Dieu dire ça aussi quand il prêche, puis c'est vraiment la réalité pareil. C'est que ce message-là, moi tout, là, ce message-là, je vous le dis, vous autres, mais il est pour moi premièrement, là. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers Dieu, parce que ça dit qu'il connaît tout. Il connaît tous vos cœurs, puis il pénètre toutes les pensées, puis les dessins. En tout cas. Fait que c'est hot, pareil. Fait que, tu sais, d'un côté, on devrait, genre, tout sauter, puis d'avoir confiance, puis d'être heureux d'aller face à Dieu, parce que c'est impossible qu'il nous donne du poison. C'est impossible. La seule chose que Dieu peut nous donner, c'est le meilleur pour nous autres même. Puis, dans l'autre aspect, ça dit, on la vit devant les... On la vit devant les hommes. L'humilité, on la trouve en cherchant Dieu. Mais en s'avançant vers Dieu, puis en la trouvant, bien, cette humilité-là qu'on va découvrir avec Dieu puis qu'on va vivre avec lui, cette humilité-là, automatiquement, je jure, en tout cas, elle va s'exprimer par moi-même. Je vais la vivre, puis les gens autour de moi vont la vivre aussi. Pareil, au début de ma conversion, un gars avec qui je travaillais chez Champion, je n'avais jamais dit que j'étais chrétien. Puis il y a une journée, je me souviens, je travaillais avec, puis il me disait, « Ah, Gilles, ce gars-là, il me regardait, puis il se grattait tout le temps la tête. » Ça, c'était Sébastien, ça. Il me dit, « Je ne sais pas, Gilles. » Puis, tu sais, d'après moi, ça lui a pris bien du temps à venir me voir et me dire ça. Il m'a dit, je ne sais pas, Gilles, mais il dit, c'est quoi que tu as, toi? C'est quoi qui est différent dans ta vie, toi, comparé à nous autres? Et là, mon gars, il dit, t'es pas comme nous autres, pas en tout. Il dit, tous les gens avec qui on travaille, qu'on côtoie n'importe où, il dit, il n'y en a pas un qui est comme toi. C'est quoi qui fait que tu es de même? Ah, là, moi, ça m'avait pris mon petit char. Hey, moi, je peux dire, moi, j'ai de la misère avec ces côtés-là de ma vie, tu sais, de m'afficher et tout. Là. Je devrais pas, mais en tout cas, c'est une difficulté que j'ai. Genre, je suis chrétien. Je le savais. Et je le savais, je le savais, je le savais, je le savais que tu étais chrétien, je le savais. Je le savais, ça se voyait. Bien, l'humilité que vous allez aller découvrir avec Dieu pour vous autres même, elle va découler sur les gens qui sont autour de vous autres. C'est hot, pareil. Je trouve ça hot. Puis, OK. Puis, dans l'humilité, je suis content, je vais rentrer dans mon temps. Clac, clac. Dans l'humilité, la chose que je voulais vous emmener comme exemple, OK? Je voulais vous parler d'un voleur ou d'un meurtrier, mettons. Le voleur ou le meurtrier qui se fait pogner pour avoir fait de quoi de mal, qui rentre en prison, qui fait son temps, puis qu'au bout du temps qu'il avait à faire, il ressort, il recommence à aller vider magasins, d'aller voler, il recommence, il refait un meurtre ou il fait n'importe quoi. Il rentre en dedans, il fait son temps. Quand il a fait son temps, il retourne, il recommence encore, et il rentre. Puis ça, c'est l'histoire, mettons, de sa vie, OK? Bien, quand les meurtriers sont faits, une personne qui agit comme ça, là, le meurtrier, quand il rentrait en dedans et qu'il se faisait questionner, mettons, par les policiers, là, bien, il disait, c'est moi qui l'ai tué, ou c'est moi qui l'ai vidé le magasin. Mais ça ne produisait rien dans sa vie. Juste le fait d'avouer quelque chose, tu sais, juste avouer dans vos vies quelque chose qui ne marche pas, mais simplement l'avouer, ça ne changera rien. Pareil comme celui qui a volé, qui a dévasisé des banques, puis n'importe quoi, qui a fait son temps, qui retourne, qui rentre, qui retourne. Il l'a avoué. Il l'a avoué au policier que c'était lui qui avait fait ça. Mais il a juste avoué. Bien, avouer, c'est pas assez. Faut aussi reconnaître. Puis quand on reconnaît qu'il y a quelque chose dans notre vie qui a besoin, qu'on est en insuffisance de, mettons, passer de Dieu à l'homme par Christ, quand tu avoues que tu es insuffisant, que ça sera impossible que tu y ailles par toi-même, que tu fasses ce que tu voudras, tu ne rentreras jamais au ciel. À moins que tu avoues que tu as besoin d'un sauveur. Bien, quand tu le reconnais, quand tu l'avoues puis tu le reconnais, tu es sur le chemin, tu es sur un chemin de guérison, tu es sur un chemin de t'en sortir. C'est comme celui qui vole, qui a dévalisé ou qui a fait des meurtres, s'il était capable d'avouer son... s'il a avoué ses fautes ou les choses mauvaises qu'il a faites, mais qu'à travers tout ça, même s'il a fait des choses extrêmement mauvaises puis que c'est capoté, comment c'est pas, s'il reconnaît, par exemple, ce qu'il a fait, en ayant de l'humilité, il va être capable de se détourner de ce qu'il faisait de mal. Mais avouer, c'est pas assez. Avouer, ça produit aucun changement. Il faut qu'une personne reconnaisse ce qu'elle a fait. Puis dans la reconnaissance, ben la guérison est là aussi. La délivrance est dedans aussi. Mais ça fait, faut faire tellement preuve d'humilité dans plein de domaines de nos vies. Mais avouer, c'est pas assez. Mais quand tu reconnais, après avoir avoué, c'est là que tout commence, dans le bien, mettons, pour une personne. Fait que, je vous ramène juste dans l'exemple de tantôt. Attendez une minute, il faut que je revise mes notes un petit peu. Ça dit que, l'humilité, on la trouve en cherchant Dieu, puis qu'on la vit devant les hommes. Puis une personne qui est humble, comme je vous ai dit tantôt, c'est pas une personne qui se voit plus importante qu'un autre. C'est une personne... Il faut que je me tourne d'abord. Ça, c'est la personne, puis les autres, tout de suite. La personne, il ne faut pas qu'elle se voit plus haute que l'autre. La personne, il faut qu'elle se voit plus petite que les autres, puis c'est ça qui fait que l'humilité En tout cas, une personne est humble. Puis tantôt, quand je vous ai dit, on l'a vu devant les hommes, c'est que un des traits de caractère d'une personne qui est humble, c'est une personne qui est facile à transmettre ses connaissances. Pareil comme, mettons, une personne qui est facile à transmettre ses connaissances, c'est que tout le bagage qu'elle a, elle n'aura pas peur de qu'une personne devienne plus grande d'elle, plus grande qu'elle. C'est comme, je ne garderai pas ma petite recette. Mettons, c'est comme Pat, mettons, qui pose des armoires, parce que je sais qu'il pose bien et tout. Mais si Pat, il voudrait, là, il ne pourrait pas parler de sa personne, comment est-ce qu'il travaille, même si c'est un des meilleurs. Mais une personne qui est humble, elle va donner ses capacités à un autre, elle va les transmettre pour que les autres puissent grandir aussi. Même si, parce que tu sais, moi dans le domaine de la construction, puis même dans d'autres choses de mon passé, souvent, ce que les gens font, les vieux plombiers, mettons, qui travaillent, là, souvent les vieux, ils vont garder leur recette parce qu'ils savent que s'ils donnent leur recette à un autre, ben c'est le jeune qui va prendre sa place parce qu'il va être plus productif que lui. Fait que les gens vont garder leur recette puis ils vont s'assurer de toujours rester, mais ça va rester à eux autres. Mais qu'ils partent, il va partir avec ses connaissances puis il n'y aura pas personne qui va pouvoir en bénéficier de ça. Fait que tu sais, l'humilité, c'est aussi d'être capable de transmettre, même si une personne va peut-être d'un côté, là, devenir plus grande que toi puis qui va performer au bout, bien, c'est hot. La personne qui est humble, elle va te donner et dire, tu peux devenir encore bien meilleur que moi. Fais-le. Tu sais, c'est correct. C'est aussi une personne qui est capable d'être au service des autres, qui est capable d'aider puis de faire grandir les gens en étant au service des autres. Puis tu sais, comme je vous disais tantôt, on la trouve face à face à Dieu, mais automatiquement que l'humilité, c'est les gens autour de vous autres qui vont en bénéficier aussi, de cette humilité-là, parce que vous allez faire grandir les gens autour de vous autres. Puis vous n'aurez pas peur de transmettre, puis de dire des conseils, puis de... C'est ça l'humilité. Puis dans la troisième partie de mon message, l'humilité vient quand une personne accepte les conseils, puis qu'elle accepte de se faire dire ses angles morts. Pareil comme quand moi, j'ai accepté, quand mon frère et Marilyn se sont fait baptiser, le Christ d'en haut, là, le fait que l'homme il est séparé de Dieu, là, mais pour la majorité des hommes, c'est un angle mort. Puis c'est pas pour rien qu'il est dans un angle mort, c'est parce que d'un côté, c'est des choses qu'ils ne doivent pas non plus trop savoir, parce que si tous les gens comprendraient ce que Christ fait, tout le monde se tournerait vers Dieu, puis qu'est-ce que Satan veut, c'est que le moins de monde le connaisse. Fait que c'est un angle mort qui est vraiment extrême. Fait que une personne qui est humble, c'est une personne qui accepte les conseils puis de se faire dire que c'est un angle mort. Puis, dans tout ça, Dieu utilise sa parole pour le faire. Puis, c'est comme un père face à ses enfants. Ou une mère face à ses enfants, parce que les mères aussi sont très importantes, pas juste les pères. Je pense que ma femme est là. En tout cas, non, elle n'est pas là, fait qu'elle ne m'écoute pas. Mais les deux vont sans l'autre, mais c'est comme les parents qui investissent dans les enfants, c'est qu'on est en train de leur transmettre nos connaissances, puis de leur transmettre et tout, les angles morts qu'ils n'ont pas, la connaissance qu'ils n'ont pas, on est en train de leur transmettre. C'est pareil comme un homme envers une femme, puis une femme envers son mari aussi. On est là aussi pour pour accepter les conseils puis pour se montrer les angles morts. Puis, je vais vous lire dans Psaume 139, versets 23-24. Psaume 139. Puis ça, ça vous quoi? C'est une super prière, ça. Tantôt, quand je vous disais de ne pas avoir peur d'aller face à Dieu, là, puis d'y parler, puis d'y dire ce qu'il y a dans vos vies, c'est que regardez bien. Dans Psaume 139, versets 23-24, ça dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. » Ça, c'est de l'humilité en tel. Mais savez-vous quoi? C'est une prière que je crois pour ma vie, puis pour la vôtre aussi, j'espère, que c'est une prière qu'on n'a pas peur non plus de dire à Dieu. Parce qu'il y a toujours l'angle mort, tout le temps, tout le temps. Moi, j'en ai des tonnes d'angles morts. Puis ma femme, elle fait souvent qu'il y a des angles morts que je ne vois pas, qu'à midi, puis je réfléchis, tu sais, Caroline, une chance que tu m'en as parlé, parce que moi, je n'avais pas vu ça de même, parce qu'on ne pense pas personne pareil. Puis on se complète tellement ensemble que, en tout cas, on peut s'aider, mais le celui qui est très bien placé aussi, là, c'est Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur les voies de l'éternité. Fait que ça, Psaume 139, verset 23, 24, c'est vraiment hot. Puis, Dieu utilise sa parole pour donner des conseils, pour montrer des angles morts. Puis Dieu. Ah, j'ai une bouteille d'eau, hein. Je ne suis pas habitué de faire ça. Excusez. Dieu utilise. Dieu utilise aussi des messagers pour nous parler. Puis, je veux vous lire dans Actes 8, 30 et 31. Acte 8. Voyons. Acte 8, 30, 31. Acte 8, 30, 31. Ça dit, pis ça, c'est de quoi qui concernait l'eunuque, là. Je vous lis. Ça, c'était une personne qui était assise dans, je vous dis vite dans mes mots, là, une personne qui était assise dans un char, dans un char, mais pas un char, c'est dans un char avec des chevaux. Char. Il était assis dans le char, puis il est en train de lire le prophète Isaïe. Puis il ne comprenait à rien de ce qu'il lisait, à rien pantoute. Ça dit, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Point d'interrogation. Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Fait que, après ça, il y a de quoi qu'il y ait un petit bout qui passe. Puis dans le verset 35, ça dit, « Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » Savez-vous quoi? C'est que Dieu utilise sa parole pour nous enseigner, mais Dieu utilise aussi des gens pour le faire aussi. Puis pareil comme l'eunuque, mettons qu'il lisait le livre d'Isaïe, là, ben il lisait ce livre-là, mais il ne comprenait à rien qu'est-ce qu'il lisait. Puis quand Philippe est arrivé au côté et qu'il a dit, « Est-ce que tu comprends ce que tu lis? » Puis qu'il répond, « Pas tout. S'il n'y a pas personne qui m'explique ce que je suis en train de lire, je ne le comprendrai jamais. » Fait que ça dit qu'il prend du temps puis qu'il va l'enseigner. Parce que Dieu utilise aussi des gens pour faire le messager de sa part. Je vais vous lire dans Philippiens 4, 11-12. Puis, savez-vous quoi, j'ai quasiment fini. C'est mon dernier bout que je vous lis. Philippiens 4, 11-12. Hop. 4, 11 et 12. Ah, ouais, c'est ça. C'est Éphésiens. Pourquoi que je dis Philippiens? Parce que là, je m'en ai dit, il y a plein de post-it de coller dans le 11. Je ne comprends pas. OK. Philippiens 4, 11 et 12. Ça dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Fait que, est-ce que vous... En tout cas, je continue. Je parlerai après. Je parle trop des fois. Dans le verset 12, ça dit qu'il a donné tous ces gens-là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Fait que, tu sais, Dieu utilise sa parole pour nous diriger, pour nous enseigner, mais il utilise aussi des hommes. Il utilise des messagers comme le père face à son enfant, comme une femme avec son mari, comme, mettons, un pasteur avec les gens de l'Église, un professeur de l'école du dimanche avec les enfants, dans plein de domaines. Dieu utilise aussi des messagers. Mais c'est ça que je voulais vous apporter. Puis, en conclusion, je fais juste vous rapporter à ce que vous vous rappeliez, que l'humilité, c'est quelque chose qui est rare, mais qui doit être recherché. C'est rare parce que c'est pas quelque chose qui est populaire. L'humilité, là, c'est rare parce que c'est une valeur qui vient de Dieu. Fait que vous ne la trouverez jamais sans aller à Dieu. Parce que c'est de lui que ça vient. Puis c'est quelque chose qui est précieux aux yeux de Dieu. On la trouve en cherchant Dieu. Puis parce qu'on l'a trouvé en cherchant Dieu, les gens autour de nous autres, ils vont le savoir. Pareil comme moi avec le gars avec qui je travaillais dans le temps. Puis aujourd'hui, je suis sûr que c'est encore de même. Fait que, en tout cas, je le souhaite. Fait que, puis dans l'humilité vient lorsqu'une personne accepte les conseils puis qu'elle est prête à se faire dire ses angles morts. Fait que, c'était sur ce que je voulais vous apporter. Fait que moi, j'ai terminé pour aujourd'hui.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.